que vous avez apporté, voilà, un peu de savoir un peu plus de comment est-ce que vous organisez, comment est-ce que vous vivez le quotidien là, en tant que femme, maman, avec une petite fille. Du coup.
Vaste sujet, hein.
Ouais, grave, grave. Du coup.
Je vais pas pouvoir. C'est pas un.
Ouais, mais du coup, ça peut être de commencer par le
Comment
début.
dire?
Le confinement, il est arrivé. Au début, tu vivais ta fille là, et puis du coup, le confinement, il arrive. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé au début? Comment est-ce que vous avez commencé à vous organiser là pour répondre à tes besoins, aux siens, et puis que la vie ait continué, alors que finalement, vous allez vivre peut-être principalement à deux.
On vit de toute façon principalement toutes les deux. Hein. C'est comme ça. Le papa de Charlie, il a choisi d'aller habiter de retourner habiter en France. Du coup, on n'est vraiment que toutes les deux avec le soutien de ma famille, puisque ma famille, elle est quand même dans le coin. Donc, ce qui a changé grandement, c'est que les possibilités pour moi d'avoir du temps juste à moi, ça a disparu. Parce que le peu de temps que je pouvais. Alors, au début du confinement, au tout début, ça tombe. Charlie est dans un espace éducatif qu'on a créé avec des amis. Du coup, on dit non, mais nous, on va trouver une solution. On se retrouve en haut de la montagne, on fait des sorties. Bon, voilà, on peut pas venir à l'Escolita, du coup, au local, parce que c'est trop voyant, les gens, ils savent trop qu'on se réunit là, blabla. Donc, ah bah, et en fait, en 24 heures de temps, ça c'était le discours du matin, non mais on s'organise, les enfants iront tout le temps en sortie, en plus au début du printemps, ça va être super. Et en fin d'après-midi, c'était, en fait on va être complètement hors la loi, et puis des familles aussi qui ont commencé à se positionner de, non en fait c'est vraiment sérieux, nous on va faire une quarantaine très stricte. J'utilise le mot quarantaine très stricte en différence de confinement, parce que pour moi, la quarantaine, c'est vraiment qu'à part ta cellule familiale, tu ne vois personne. Nous, on a eu plusieurs cas de famille qui ont décidé de faire ça. Du coup, c'est personnel, hein, c'est moi qui me donne la liberté d'utiliser le mot quarantaine, parce que ça me parle plus. Parce que je me sens confinée, mais je me sens pas en quarantaine.
Okay.
Dans mon cas, puisque moi dans mon cas ça a été du coup en une semaine j'ai absolument tous mes tafs qui ont disparu. Moi je bosse au noir, j'ai pas du tout de, j'ai zéro contrat là depuis que je suis en Espagne, j'ai jamais eu de contrat. Donc en une semaine il y a tout qui disparaît et moi je sais pertinemment que j'ai besoin de voir des gens et je sais que Charlie aussi, enfin qu'on va péter, que moi je vais péter un plomb en tout cas si je suis avec elle et que ça m'inquiète de nous retrouver, de l'embarquer dans une situation pareille. Donc, la chance, il y a une des familles de l'Escolita qui reste accessible, qui a envie qu'on voit, qui a envie qu'on réfléchisse à des choses, genre les bulletins officiels de l'État. Moi, je peux les lire, mais c'est quand même vachement plus intéressant de les lire avec des amis et de réfléchir à des stratégies, parce que c'est sympa d'avoir des règles. Surtout, le plus sympa, c'est d'arriver à se la réapproprier. Parce que si on s'arrive de trop, quoi. Comme là, ce que je te disais tout à l'heure, ce truc de aujourd'hui, sur le bulletin officiel de l'État, on va arriver à un état de confinement comme le vôtre. C'est-à-dire que les enfants auront le droit de sortir un petit peu et il y aura le droit d'aller faire du sport autour. Bah directement, en fait, quand j'en ai entendu parler, c'est, en fait, il faut qu'on se fasse une bouffe, il faut qu'on se fasse un truc et qu'on en discute pour voir c'est quoi les possibles qu'on a dans ce qu'ils vont nous balancer, quoi. C'est pas qu'une impression, moi, ça me rend plus fort. Et aussi ça, hein, dans l'idée de je reste pas seule avec ma maman à la maison, c'est que même si j'ai un gros... Ça a fait comme si ma tribu elle se resserrait autour de moi. Enfin, tu vois, il y a eu les copines de Nantes, là, je les ai toutes eues au téléphone. On s'est toutes donné un signe de on est là. Les copains et les copines de Nantes, celles de Toulouse, celles de Barcelone, à Madrid et ici. Enfin, il y a eu vraiment un truc de comme si l'espace social dans lequel moi j'évolue, c'était plus réel, essentiel. Je sais que cet essentiel, il était là. Mais tu sais, juste au début du confinement, ce que ça a donné, c'est que toute la famille choisie, là, elle réapparaît et on est là, et on est toutes là. Et on est toutes là, on est prêtes à partager. Enfin, moi, ça m'a fait Ah, ça a été un soutien énorme là, d'avoir plein d'amis qui me disent bah en fait si t'as besoin de causer vas-y t'appelles, si t'as besoin d'argent en fait on est là. Si mon daron aussi il a paru sur ces trucs là, enfin c'était assez rigolo hein. Enfin que j'ai besoin de demander ou quoi, en fait on est là. Mmh. Pas physiquement mais on va être là en fait. Enfin tu n'hésites pas. Après il y a du boulot qui est réapparu. Mmh. On m'a reproposé du taf et dans un contexte que moi je trouvais sécure, c'est-à-dire je suis seule sur un chantier à finir tout un tas de bidouilles. Je peux y aller à pied. Ça, on marche beaucoup là avec Charlie, mais ça faisait aussi un truc de les deux maisons dans lesquelles elle peut aller, elles sont relativement à côté. Je suis à 15-20 minutes de pouvoir aller la récupérer à pied, ce qui n'est pas énorme. Donc pour l'instant, je rentre 100 boules par semaine. Je sors un peu, je vois un peu d'autres gens. Ma maman, elle voit des enfants, elle voit des amis. Et du coup, on est sur cet équilibre-là.
Ok. Du coup, ça fait qu'il y a eu un soutien un peu affectif, un soutien de pensée qu'a pu se faire avec tes proches et que tu as réussi à trouver un peu une stabilité économique. Un truc comme ça, quoi. Et du coup, au niveau du quotidien avec Charlie et puis dans ton quotidien et puis dans la réponse à vos besoins à toutes les deux, dans votre organisation, ça s'est passé comment au début? Ça se passe comment aujourd'hui? Comment elle s'organise
au
aujourd'hui?
Il y a tout qui est tout neuf. Du coup, c'est comme si, c'est comme si tu recherches un point d'équilibre. Tu dis, ah ben, ça, on va changer, ça, truc, ça. Tu cherches un peu les points d'appui, quoi, les nouveaux points d'appui qu'il va y avoir avec la situation. Là, aujourd'hui, moi, ce qui me manque dans mes besoins que j'arrive pas à couvrir, c'est d'avoir du temps pour moi. D'avoir du temps où je suis pas maman. Tu sais, ce truc de. Enfin, il y a eu des jours, là, ces derniers jours, où le premier moment de la journée était là. Oh non, j'ai pas envie aujourd'hui de ça. Mmh. Voilà. C'est en fait. C'est pas grave, et c'est grave, j'en sais rien, mais juste, je le traverse, quoi. Je le traverse. Après, je suis aussi entourée de nanas qui me culpabilisent pas là-dessus. Mmh. Du coup, j'ai des espaces pour le dire. Et rien que de pouvoir le dire, même si je n'ai pas vécu, ça me laisse une bulle d'air.
Ouais, parce qu'il y a d'autres copines avec qui j'en discutais, là, et puis c'est pareil, c'est chaud aussi sur ce truc-là de culpabilité ou pas culpabilité, de se dire, bah tiens, j'ai besoin de temps pour moi, mais là, mes mômes, elles viennent me solliciter. Et du coup, le fait que les mômes viennent la solliciter, bah du coup, ça faisait qu'elle n'arrivait même plus à continuer à lire ou à prendre du temps pour elle, parce que bah, c'était trop dur, quoi. Et du coup, de plus avoir même la disponibilité, même si physiquement, il y avait le truc d'essayer de commencer à caler avec la môme, de dire, bah tiens, toi, t'as tes besoins, moi, j'ai mes besoins. Et du coup, dans la théorie, on pourrait se dire, bah c'est cool, là, elle peut continuer à lire, mais en fait, ça prenait trop de charge mentale, en fait, en se disant, mais ouais, mais là, mais qu'est-ce qui va lui arriver à elle? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Donc toi, ça veut dire, là, t'as réussi à dépasser un peu ça?
Ben moi ça dépend des moments, ça dépend comment je la sens, quoi. Mais c'est pareil, enfin c'est compliqué d'avoir des temps de. Au début elle était un peu comme ça, paumée dans le temps, de dire en fin de journée, bah c'est le matin. Ben non, on n'est pas du tout le matin, enfin c'est. Parce que toute sa routine à elle aussi, tous ses repères dans le temps, ils avaient complètement explosé. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est de refaire un papier avec un peu des recalés, des moments où moi je suis dispo pour faire des trucs avec elle, des moments où je fais du quotidien, des moments où je suis pas dispo. Mais j'arrive pas du tout à le respecter. Et puis elle, du coup, elle est tout le temps, elle est tout le temps donné, mais moi je veux faire quelque chose avec toi. Moi non. Moi j'ai pas envie. Puis là, c'était assez drôle cette histoire. Elle revient de chez une copine qui a donc d'origami avec ses gamins en ce moment. Et du coup, Charlie va absolument faire des origami. La copine est suremballée de que je fasse des origami aussi. Moi, j'ai pas. Moi, les origami, c'est franchement pas mon truc. Bon, je m'oblige. Je fais, vas-y, on va faire un truc ensemble. On va faire une origami. On va faire une famille de cygnes. C'est bien ça, une famille de cygnes. Ça, c'est très bien. Ah ben en fait c'est Charlie qui a failli finir plié, quoi. Enfin tu vois juste était là. Non mais en fait on va pas du tout faire ça. Voilà, tu vas le faire avec Araceli et c'est très bien comme ça. Maman, elle peut pas juste tout couvrir. Je peux pas. C'est vraiment très très mal finir entre nous si on continue les origami, Charlie. Ça va pas le faire. Je le sens. Du coup, de recaler ce truc de je vais pas pouvoir. Ça m'a remis juste en tête, je ne vais pas pouvoir combler tous les manques de maman. C'est comme ce truc de elle sait pas quand elle va avoir son papa, à part l'accompagner dans la douleur que ça peut lui créer, dans la tristesse que ça lui fait. Je peux pas entrer dans lui dire des dates ou des machins ou des gens, c'est rien ce que je te disais. Ma projection, moi qui aime bien me projeter, elle va pas au-delà de 2 jours. Enfin, j'essaie vraiment de me discipliner à pas me projeter au-delà de 2 jours. Parce que sinon, ça se réalise pas en fait. En plus, il y a un truc où c'est trop complexe. Non, ma papa, on sait pas. On ne sait juste pas.
Et du coup, tu disais qu'il y avait quand même des organisations qui se font. Du coup, là, c'est votre quotidien à toutes les deux. Et tu dis, vous voyez quand même d'autres gens à côté. Du coup, il y a quand même. Ça se passe comment, du coup, les allers-retours avec les autres ?
Du coup, comme moi, je suis dans un espèce d'épicentre là, à Pitresse, là où j'habite. C'est pas du tout stratégique de se retrouver chez moi. Donc, ça fait. Moi qui avais une espèce de maison ruche. La maison est vide depuis 6 semaines. Donc c'est moi qui vais chez les gens. C'est nous avec Charlie qui nous déplaçons chez les gens. Et si on a besoin de se laisser des trucs, de se passer des choses qui pèsent lourd, comme tout le monde monte à Pitresse pour faire ses courses, puisque c'est le seul supermarché qu'on a. Je laisse les trucs dans le camion, on se casse des plages horaires, les gens prennent un rendez-vous entre guillemets, parce que comme c'est aussi le seul supermarché et qu'on peut, là depuis une semaine on rentre 5 par 5, on se retrouve avec une file de gens qui attendent dehors pour pouvoir rentrer au supermarché. Et des fois juste pour ça peut te prendre 2 heures. Et puis d'essayer de se réhabituer à s'organiser en vocal, de ne pas le faire ni via message, ni via téléphone, le maximum. Et ça, c'est un sacré exercice aussi. C'est un sacré exercice.
Tu veux dire tous les...
revenir à ça.
Parce que ça nécessite trop d'organisation pour pouvoir être répondu par des allers-retours de WhatsApp ou de texto, et du coup, vous appelez, c'est ça? C'est quoi s'organiser?
Ouais, ça, et puis moi, ça me rassure de me dire que c'est entendu que dans un espace où la personne allait, que c'est pas un truc qui est envoyé. Du coup, on se cale quand on se voit. Et si vraiment changement, il y a un message. Enfin, tu vois, s'il y a vraiment un truc qui n'est plus là, on s'envoie un message, sinon non. On reste sur ce qu'on s'est dit. Sur le rendez-vous de « je vais arriver entre telle heure et telle heure ». En plus, la situation me redonne cette flexibilité. Genre demain, j'ai filé rancard à une pote et c'est « j'arrive entre 3 et 4 heures de l'après-midi ». Je vais pas pouvoir être plus précise. Tu vas être chez toi ? Oui, je vais être chez moi. Ok, super.
On revient un peu comme au temps d'avant le téléphone, quoi. C'est un peu un truc comme ça, quoi. Ouais, vas-y, on se retrouve là, et puis t'as pas les textos ou les appels pour dire ouais, je suis en retard, je suis en avance, on va voir, quoi.
Je vais pas envoyer, ça me sert à rien, ça me met une pression dont j'ai pas besoin, alors que je suis déjà en pression sur le trajet de pas croiser les flics. Donc sur le trajet, je suis à me concentrer, je regarde pas mon téléphone, je suis à me concentrer d'entendre s'il y a des voitures qui arrivent, je suis sur d'autres choses là, sur le trajet, sur le déplacement, que de regarder mon téléphone et me dire merde, la personne elle m'attend. Ouais, la personne elle m'attend, j'ai une heure de laps de temps que je vais donner sur de l'attente. Au bout d'une heure, elle a le droit de s'inquiéter.
Et sur les trajets, t'es toujours comme t'étais au départ. Tu nous racontais dans une autre interview là que t'avais le petit chemin qui était en bas de chez toi, entre les ronces, pour pas être vu, pour pas partir du côté village. Et puis il y a des moments de se cacher quand il y a des voitures. Ouais, c'est toujours ça.
Parce que du coup, c'est toujours ça, ouais.
Parce que du coup, les...
maintenant, c'est même Charlie qui me dit quand il y a des bagnoles. Ça y est, elle les entend aussi arriver de super loin et on se planque les deux. Et ce qui est assez cool, parce qu'en vrai, ça évite de se planquer en panique. Parce que comme il a... Bon, après, c'est du détail, tu vois, mais juste, il a vachement plu par ici. Et de courir dans la montagne avec des bottes en caoutchouc, c'est très nul. Je pense que ça a déjà fait, c'est très très nul. Tu glisses, tu tombes, tu te fais mal, tu paniques. Du coup, j'ai éliminé cette... C'est vachement plus sympa d'avoir eu le temps de se planquer.
Donc dans les trucs d'organisation, il y a la voix qui prend sur le message, il y a le camion comme lieu d'échange où les gens ils peuvent déposer, reprendre des trucs. T'as une dimension un peu de temps qui évolue. Et puis parce que ce qu'on se dit là dans les interlinks, c'est que la pression sociale, elle est, y a, vous faites gaffe à des trucs là sur le virus, mais il y a aussi une pression des voisins voisines en fait qui sont vachement vigilantes à ce qui se passe. Et puis il y a des moments un peu déconnants sur des trucs. D'interrelation, quoi.
Et ça, tu vois, j'ai l'impression que c'est en train de se détendre.
Ok.
C'est en train de se détendre et je sais pas si c'est parce qu'il y a en vrai, je le vends quand même pas mal, mais genre, il faudrait que j'en cause avec plus de gens. Mais nous, ce qui s'est passé ici, c'est que la semaine dernière, il y a encore plus de flics qui sont arrivés. Des flics pas du coin. Avec chacun il va de sa petite sauce, enfin c'est vraiment pas chacun interprète le truc quoi. Du coup j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un ennemi commun qui était réapparu, qui est eux, ceux qui sont dehors. Parce que les flics d'ici, limite ils sont d'ici, quoi, enfin les trois patrouilles qu'il y a normalement, ben, voilà. On les connaît. Tu vois, il y a des voisines, c'est des potes, enfin en tout cas ils les considèrent comme des potes, quoi. Et là le fait qu'il y ait des nouvelles patrouilles et que. Par exemple, ma petite voisine, je sais pas, je trouve que ça a changé des trucs. Genre les filles là du supermarché, alors je sais pas si c'est pareil, parce que je suis tombée à des bons moments avec le bon groupe de personnes et la bonne dynamique, hein, mais l'autre jour je me retrouve à faire de la queue pendant une heure à la sortie du supermarché. Mais c'était hyper drôle. C'était juste hyper drôle en vrai. Enfin, au fur et à mesure, les distances de sécurité, ça me nuisait. Au fur et à mesure, on raconte des trucs, chacun. C'était comme une ligne, une file de ressenti. Parce que c'est le seul endroit où on se croit tous, et en fait on est tous du coin, on se connaît tous les tronches. Du coup c'était vraiment marrant. À l'extérieur on était tous en train de se causer sans les masques, et puis quand on entraîne, hein, c'est mourir de rire. Et du coup le type en cause, c'est un mec qui me vend pas mal de matériel. Et de construction. Il se prépare pour rentrer au supermarché, hop, il se remet ses gants, il remet son masque, et il rentre dans le supermarché. Alors que dehors on était à se parler à un mètre, ce qui est plus normal quoi.
Mais ce qui arrive aussi par chez nous là, je pense dans la réponse aux besoins aussi, là, ça fait un mois qu'on est là, on voit pas forcément la fin tout de suite, et du coup il y a de nouveau un nouvel équilibre qui est en train de se mettre en place. Les gens commencent aussi à se déplacer un peu, à plus voir, parce que bah on peut pas continuer comme ça quoi. Tu peux pas continuer à vivre tout le temps juste isolé les uns les unes des autres, et du coup là c'est vous, ça vous fait ouais, c'est une bulle d'air qui arrive quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Okay. Ouais, je trouve ça drôle.
Est-ce que t'as une petite...
Ça me fait repenser à ce qu'on disait tout à l'heure, à ce truc des règles que tu te réappropries. Bon bah ok, bon, on fait la queue à la sortie du supermarché, on peut rentrer 5 par 5, bon bah d'accord, on rentre 5 par 5. Mais du coup on se retrouve à 30 dehors à attendre. De tous les villages alentours, enfin moi ce que je te disais, il y a 3 villages où je vais, parce que c'est faisable avec ma môme. Mais il y a des potes dans d'autres villages, et là ça fait plutôt plaisir d'aller voir.
Eh ben merci.
Pas de rien.
D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre alors ensemble, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon est vite fait. Oui mais c'est la faute à Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, aucune pomme à l'inventaire, qui l'a volé c'est toi Adam. Et me s'avance à fanfaronne, et dit mais non papa c'est moi. Et d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute à Ève, s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit attends je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça quelle triste affaire, Dieu leur a dit faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire éporter les enfants. lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève. Si Adam rentrait crevé, elle avait une vie de rêve. Elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Et quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon. Il faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. On se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses. Bah, ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève. J'irai pas au paradis, non mais, qu'est-ce qu'il s'imagine. J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas.
Vous écrivez et nous crions pour vous.
Passage d'information, petite annonce, coup de gueule, défi. Envoie un mail sur radio.sansnous@cma-pdll.org et on le lira.
Radio sans nous, crieur public, petite annonce.
Tous les jours à 12h30 ou à 19h45.
Vous écrivez et nous crions pour vous.
Vous connaissez l'histoire du Creek ?
Non.
Eh bien, il est grand temps que je vous la raconte. Sur une petite route de campagne, un homme a son pneu qui crève. Il aperçoit une maison au loin. Il se met à marcher vers la maison tout en se disant « Et si jamais ils n'avaient pas de cric ? Peut-être qu'ils en ont un, mais ils vont me demander de payer. Et si c'est le cas, combien est-ce qu'ils vont me demander ? 100 dollars ? 200 dollars ? 1000 dollars ?»
Il se monte la tête.
Exactement. Alors au moment où l'homme arrive devant la porte, sonne et que les gens ouvrent, il leur dit « Votre cric. Vous pouvez vous le mettre où je pense. »
Vous écrivez et nous crions pour vous.
Salut les petits cul-culs, c'est Pouldo. Et vous êtes bien sûr Radio Sans Nous. Jeudi soir, c'est scène ouverte. Tu peux envoyer ton son à radio.sansnous@cma-pdll.org. Et je compte sur vous pour foutre le feu.
Vous écrivez et nous crions pour vous.
Les riches et les pauvres. À une sécheresse de plusieurs mois avait succédé la famine. Mais tout le monde ne mourait pas de faim pour autant. Les riches avaient pris soin de faire d'amples réserves de blé, d'huile, de légumes secs et de viande séchée. Khadija dit alors à son mari, « Nasreddin, toute la ville te tient pour un homme de poids. Ne reste pas les bras croisés. Va sur la place, rassemble tout le monde et tente de convaincre les riches de donner à manger aux pauvres. » Il fait comme elle dit et 2 heures après rentre, la mine réjouie. « Ma femme, rendons grâce à Allah le miséricordieux. »« Ah, tu as donc réussi. » »« Ce n'était pas une mission facile. À moitié. » »« Comment cela, à moitié ?»« Oui, j'ai réussi à convaincre les pauvres. » »«
Vous écrivez et nous crions pour vous !»
Thank you.
Vous écrivez et nous crions pour vous.
Donc, article de Mediapart, sur la piste des traitements, la guerre des brevets est déclarée, par Rugayata Sal. Le remdesivir du laboratoire américain Gilead représente l'un des plus gros espoirs face au Covid-19. Bien qu'encore au stade des essais, l'Institut de virologie de Wuhan prétend obtenir son propre brevet. Les ONG alertent sur la nécessité, s'il est efficace, de garantir son accès au plus grand nombre. D'abord expérimenté contre Ebola, le remdesivir, un antiviral, ne s'est pas montré efficace. Mais contre le coronavirus, il a déjà fait ses preuves in vitro. Alors qu'aucun traitement n'existe à ce jour, il est testé dans plusieurs essais cliniques, en France et en Europe, mais aussi aux États-Unis comme en Chine. Il n'y a pour l'instant qu'un seul médicament dont nous pensons qu'il pourrait avoir une réelle efficacité, et c'est le remdesivir, indiquait le sous-directeur général de l'OMS à la mi-mars. Vendredi 17 avril, l'action de Gilead a même bondi de près de 10% à Wall Street, après que le média spécialisé State News a révélé les résultats primaires d'une étude menée à l'hôpital de Chicago. Des malades traités avec le remdesivir quittent l'hôpital en moins d'une semaine. Les espoirs sont donc nombreux, les inquiétudes aussi. Le 30 mars, 145 OMG du monde entier ont adressé une lettre ouverte au patron du laboratoire Gilead qui a inventé le remdesivir et qui en tient les brevets. Inquiétés que ces derniers puissent freiner la lutte contre la pandémie, ces organisations lui réclament de garantir la disponibilité du produit à un prix abordable s'il fonctionne. Dans le secteur pharmaceutique, la propriété intellectuelle est en effet un enjeu majeur. La détention d'un brevet garantit l'exclusivité commerciale sur un territoire donné et vient rentabiliser des années de recherche et d'investissement. Les concurrents ne peuvent produire de générique pendant 20 ans, puis l'invention tombe dans le domaine public. Généralement, un laboratoire dépose plusieurs brevets avec différentes applications de la molécule selon les pathogènes, virus ou bactéries concernés. Le remdesivir est ainsi protégé au moins jusqu'en 2031. Notamment pour son application contre le coronavirus. Gilead a déjà obtenu un brevet américain qui lui donne l'exclusivité aux États-Unis. Mais la compagnie pharmaceutique a aussi des demandes en cours d'instance dans des dizaines d'autres pays, grâce au système de demande internationale simultanée de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Même si Gilead a déclaré qu'elle s'efforcerait d'assurer l'accès à un prix abordable aux patients qui en auront le plus besoin, les ONG militent pour un accès de tous et de toutes aux médicaments et sont donc en alerte. Elles craignent non seulement que les prix ne s'avèrent exorbitants, mais aussi que Gilead ne puisse satisfaire la demande. De fait, c'est déjà le cas. Aux États-Unis et en Europe, le remdesivir est autorisé en usage compassionnel, décidé par un médecin en cas d'urgence, comme c'est le cas avec la chloroquine dans certains CHU en France. Or, avec l'explosion de la demande, il a dû être réservé aux femmes enceintes et aux enfants. Gilead fournit aussi le remdesivir pour les essais cliniques en cours, notamment en Chine, d'où est partie l'épidémie. C'est à ce moment-là que l'Institut de virologie de Wuhan a déclaré la guerre avec Gilead en déposant une demande de brevet sur le remdesivir, le 21 janvier, alors que le géant pharmaceutique américain avait déjà fait sa demande pour le territoire chinois. Les demandeurs chinois assure qu'ils mettront la procédure en stand-by si des compagnies pharmaceutiques étrangères collaborent avec la Chine pour freiner l'épidémie. En attendant, la société chinoise BrightGen est déjà prête, puisqu'elle a déclaré être capable de produire ce médicament expérimental, tout cela sans l'aide ni l'autorisation des Américains. Impossible toutefois de connaître le contenu du brevet demandé par l'Institut de virologie de Wuhan. Il n'a pas encore été rendu public. Avocat spécialisé en contentieux des brevets, Mathieu Den connaît bien le monde pharmaceutique, puisqu'il a travaillé pour la société Mylan contre Gilead lorsque la firme américaine s'était opposée, vainement, à la production en France du PrEP, un générique de son Truvada, médicament préventif contre le VIH. Interrogé par Mediapart, Mathieu Den rappelle qu'en matière de médicaments, les brevets sur les molécules sont très larges, car les dépôts se font assez tôt, au moment des recherches. Il pense toutefois que la demande chinoise pourrait porter sur une deuxième application thérapeutique. Mais un brevet doit satisfaire à l'exigence d'activité, dite inventive, d'après l'avocat. La demande sinoise ne pourrait donc aboutir. L'efficacité du remdesivir dans le traitement du coronavirus était déjà connue, alors que la nouveauté doit être absolue. Il suffit qu'il y ait une publication, une information, quoi que ce soit d'accessibilité au public, et vous n'avez plus de nouveauté. Or, de nombreuses publications sont déjà parues. Aux États-Unis, il existe par ailleurs une exclusivité de 7 ans, grâce au statut de médicament rare contre les maladies orphelines. Il est évident que le Covid-19 n'en est pas une. Pourtant, Gilead a obtenu ce statut pour son remdesivir le 23 mars. Comment ? Grâce à une faille réglementaire, comme l'explique le média The Intercept, puisqu'il peut être accordé tant que la maladie n'a pas encore touché 200 000 Américains. Devant la levée de boucliers, dont des critiques émises par Bernie Sanders, Gilead a déclaré y renoncer 2 jours plus tard, le 25 mars. Mais cette démarche de Gilead, avec le statut de médicament orphelin, nous laisse craindre le pire, réagit Pierre Chirac, pharmacien et membre de la rédaction de la revue Prescrire, signataire de la lettre ouverte. On peut craindre que Gilead, selon sa tradition, cherche à gagner un maximum d'argent avec ce médicament, plutôt que d'en faire profiter le plus grand nombre, regrette le pharmacien. Lui espère que l'OMS, c'est-à-dire les États membres, soutiennent le principe que la recherche pour le Covid-19 soit un bien commun. Il rappelle que pour l'accès aux médicaments du sida, on a vu des firmes renoncer à leurs droits ou qui les mettaient dans un pool de brevets, pour que les médicaments soient accessibles à tous et à toutes. D'autres inquiétudes persistent. Jessica Bury, de MSF Access Campaign, également signataire de la lettre ouverte, craint que l'histoire ne se répète. Cette pharmacienne revient sur les premiers traitements pour l'hépatite C, lancés par Gilead. Ils coûtaient 84 000 $ pour 3 mois de traitement, alors que les génériques, produits ensuite en Inde, coûtent quelques centaines de dollars. Jessica Bury dénonce également le fait que Gilead puisse faire des profits sur le remdesivir, alors que les essais cliniques sont financés par les gouvernements, même si l'entreprise a lancé ses propres essais. Les ONG demandent à Gilead de coopérer pleinement. Si Gilead partage la technologie, le savoir sur le remdesivir, ça peut aller bien plus vite pour les autres firmes, espère la pharmacienne, qui veut éviter que les autres entreprises perdent leur temps à se creuser la tête pour trouver la recette du remdesivir et à deviner son mode de production en partant du médicament final. On veut qu'ils renoncent aussi à l'exclusivité sur les données, car c'est aussi un moyen de conserver leur monopole, ajoute Jessica Bury. Ces données sont des études sur la toxicité ou les résultats des tests sur les animaux, requises pour enregistrer un médicament. Les signataires de la lettre souhaitent que Gilead les rende publics pour faciliter la production du générique dans le monde entier. Malgré toutes ces batailles, le droit des brevets prend en considération les épidémies. Un État peut demander une licence d'office pour des raisons de santé publique, afin de produire un générique même s'il ne détient pas le brevet. Cette disposition peut changer la donne. Fin mars, dès que le gouvernement israélien a annoncé une licence d'office pour le Keletra, un anti-VIH, lui aussi en cours d'essai clinique pour le Covid-19, le laboratoire AbbVie a renoncé à ses droits partout dans le monde. Voilà, c'était un article du Monde Diplomatique de Rougaïat Assal. Sur la piste des traitements, la guerre des brevets est déclarée.
Vous écrivez et nous crions pour vous!
Nous sommes au mois de mars, dans la chambre d'un hôpital. Nos deux esprits souffrent, mais il n'y a que son corps qui a mal. Le canal qui évacue la noirceur est bouché. Il est affaibli, je suis touché, je suis assis, il est couché. Ce soir, c'est sa première d'une longue série d'opérations. On ne le sait pas encore, il y aura des complications. On a bien fait d'insister pour qu'ils prennent la télévision. J'ai rarement traversé des silences aussi longs. Quand j'ai appris ce qu'il avait, je traînais sur Broadway. Je ne lui ai jamais dit qu'au fond de moi je m'en voulais. Il fait face à un cancer à 74 ans. Ses regards, ses mots ne font dire qu'à cet instant. Il pensait qu'il pouvait mourir. 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 Létalité depuis plus d'un mois, on est tous à cran. On pense à Dieu, on se dit qu'il est grand parce qu'on est croyant. Perdre tant de poids en si peu de temps, j'avoue c'est effrayant. Mon neveu de 3 ans a eu peur en le voyant. Qu'est-ce que je hais cette chambre, je m'y suis habitué. Les infirmières me semblent déshumanisées. Je l'aide pour bouger, pour s'asseoir, pour se lever. Et on a eu une conversation dont je me serais bien passé. Il m'a dit tes sœurs sont trop sensibles, Alain on doit parler. Voilà ce qu'il faut faire si quelque chose doit arriver. Tu sais, des fois en Afrique, les gens qui ont des accidents, on les enterre au bord de la route pour gagner du temps, garder l'argent. Vite, on ne visite plus une tombe à l'autre bout de la ville. C'est naturel, il faut que les morts laissent les vivants tranquilles. Il a toujours été le plus pragmatique de nous deux. Il m'a dit s'il y a des obsèques, faites au moins coup deux. Il pensait qu'il pouvait mourir. 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 De temps en temps, il va de sa petite blague morbide. Je le reconnais bien, ma sœur a le visage livide. J'ai comme l'un à le ronge comme de l'acide. Que les perfusions le nourrissent moins qu'elles ne le vident. C'est le petit paradoxe de tous ces moments rudes. On sent qu'on est plus proches les uns des autres que d'habitude. J'aurais grave besoin de noyer tout ça dans la tisse. Je reste près des miens, j'accompagne ma mère à l'église. Je me dis que c'est le sort, quelle que soit la vertu ou les péchés. Quand j'arrive très souvent, il dort encore ou il fait des mots fléchés. Pour venir, je prends le bus, non j'avoue, ce n'est pas très rapide. Dieu merci, il a plutôt bien supporté sa chimiothérapie. Je le regarde dehors, la pluie tombe toujours. Je ne sais pas encore qu'il va me faire écrire ma première chanson d'amour. Il m'a dit, tu sais, ce truc-là a déjà frappé ton grand-père. Fais des examens, c'est peut-être héréditaire.
Il pensait qu'il pouvait mourir. 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 Mourir.
Mourir.
Nouveau rituel sur Radio Sans Nous. Tous les midis, des sons, des cris. T'as envie de nous parler des cris, de crier, de nous parler d'un livre que t'as aimé ou d'un texte, de nous en lire un extrait ou la totalité.
Que j'adresse aussi ce courrier à d'autres noms.
On attend tes contributions sur radio.sansnous@cma-pdll.org. Objet du message, des sons, des cris. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Des sons d'écrits, ceci est un petit appel à témoignage pour réfléchir ensemble sur la question de nos espaces d'intimité, de nos espaces qui nous permettent de nous extraire du groupe, du collectif, du foyer à des moments. Et voilà, on va essayer de collecter un maximum de petits témoignages sur vos chambres, votre rapport à votre chambre, dans la vie, dans le confinement. Est-ce qu'elle a changé en termes d'aménagement? Est-ce que votre rapport à votre chambre a changé? Qu'est-ce que vous y vivez? Est-ce que vous la partagez? Est-ce que vous y vivez seul? Etc, etc.
Les témoignages récoltés seront
agrémentés d'extraits de Histoire de chambre de Michel Perrault, paru aux éditions du Seuil.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume.
Michel Perrault, c'est une historienne extraordinaire qui avait coordonné et écrit avec Georges Dupuis l'histoire des femmes en Occident, paru chez Plon en 91-92, qui est un livre en 5 volumes qui a été le premier livre de recherche historique sur l'histoire des femmes qui a fait date dans l'histoire de l'histoire. Et elle a aussi écrit d'autres livres qui sont moins longs et moins touffus. Elle a notamment sorti en 2006 « Mon histoire des femmes » aux éditions du Seuil, qui est assez chouette. Et puis un petit livre que je vous conseille vivement sur la question de comment on peut être une héroïne et comment on peut penser l'héroïsme au féminin, qui s'appelle « Mélancolie ouvrière », qui est à la fois une recherche historique et une fiction romanesque sur le parcours d'une femme dans les magnaneries autour de Lyon. Nous avons donc choisi de parler de chambres parce qu'en cette période de confinement, sûrement, il y a des choses dans nos rapports aux chambres qui changent. Et parler de chambres, ça permettait aussi de parler de soi et de parler de l'intime. Et comme l'intime est politique, eh ben, ça nous paraissait sensé. On considère que parler de l'intime et parler de nos réalités intimes, ça contribue à construire du politique et à réfléchir ensemble.
Mais 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et 3 nuits par semaine, mais bon Dieu qu'elle est belle.
Évidemment, on pense d'abord et avant tout à l'ensemble des personnes qui n'ont pas de chambre, à l'ensemble des personnes qui n'ont pas choisi le lieu où elles vivaient et qui subissent, qui sont enfermées, ou aux personnes pour qui une chambre c'est un lieu de danger, d'agression, de violence, de peur. Et que c'est d'abord ces personnes-là qui sont importantes aujourd'hui et à qui on a envie de penser. On invite toute personne qui souhaiterait témoigner de ce qu'elle vit dans sa chambre à nous envoyer son témoignage et évidemment on les diffusera et on continuera à écrire ensemble nos histoires de chambre. Ces histoires de chambre, on a envie d'en compiler le plus possible, on a envie de pouvoir recouvrir plein de réalités. L'idée est d'oser témoigner, d'oser se raconter, se livrer et évidemment on a en tête que tout le monde n'a pas les mêmes vie n'a pas les mêmes réalités et que ces enjeux-là sont bien pièges et des rapports de deux contre lesquels on va continuer à lutter.
Ma maison est un bois, mais c'est presque un jardin qui danse au crépuscule autour d'un feu qui chante, où les fleurs se mirent dans un lac sans teint et leurs images en baume aux brises frissonnantes, aussi folles que l'aube, aussi belles que l'ambre. Dans cette maison-là, j'ai installé ma chambre. Ma chambre est une église et je suis à la fois, si je vante un instant, ce monument étrange. Et le prêtre, et le dieu, et le doute, et la foi, et l'amour, et la femme, et le démon, et l'ange. Au ciel de mon église brûle un soleil de nuit. Dans cette chambre-là, j'ai mon lit.
Histoire de chambre, Michel Perrault. Pourquoi écrit-on un livre ? Pourquoi ce livre sur les chambres, étrange sujet qui a surpris plus d'un de mes interlocuteurs, vaguement inquiets de me voir égaré dans ces lieux suspects ? Des raisons personnelles, obscures à moi-même, expliquent sans doute ma réponse assez spontanée à la demande de Maurice Hollander, qui s'enquérait du livre que je pourrais écrire. Un certain goût de l'intériorité puisé dans la mystique des couvents de jeunes filles dont j'ai réalisé plus tard à quel point elle était imprégnée d'âge classique. L'imaginaire des contes et de leurs merveilleux liés à baldaquin, la maladie vécue pendant la guerre dans l'angoissante solitude d'une maison tchécovienne, l'ombre fraîche de la sieste dans les étés torrides d'un pays espagnol, le trouble ressenti à l'entrée dans une chambre avec l'être aimé, le plaisir de fermer sa porte dans un hôtel de province ou à l'étranger, après une journée encombrée de bruit et bruissante de paroles vaines et inaudibles. Voilà bien des motifs profonds ou futiles à l'élection d'un lieu foisonnant d'intrigues et de souvenirs. Mes expériences de chambre irriguent ce récit. Chacun d'entre nous a les siennes, et ce livre est une invitation à les retrouver. Bien des chemins mènent à la chambre. Le repos, le sommeil, la naissance, le désir, l'amour, la méditation, la lecture, l'écriture, la quête de soi, Dieu, la réclusion, voulue ou subie, la maladie, la mort. De l'accouchement à l'agonie, elle est le théâtre de l'existence, ou du moins ses coulisses. Celles où, le masque dépouillé, le corps vêtu, s'abandonne aux émotions, au chagrin, à la volupté. On y passe près de la moitié de sa vie, la plus charnelle, la plus assoupie, la plus nocturne, celle de l'insomnie, des pensées vagabondes, du rêve, fenêtre sur l'inconscient, sinon sur l'au-delà, et ce clair-obscur renforce son attrait. Cette diagonale recoupait plusieurs de mes centres d'intérêt, la vie privée, qui s'y blottit, différemment selon les âges, l'histoire sociale du logement, des ouvriers, acharnés à trouver une chambre en ville, celle des femmes en quête d'une chambre à soi, l'histoire carcérale, polarisée par la cellule, l'histoire esthétique des goûts et des couleurs, décryptant dans l'accumulation des objets et des images, et les changements de décor. Le passage du temps qu'il aurait consubstantiel. « Ce n'est pas le temps qui passe, disait Kant, ce sont les choses. La chambre cristallise les rapports de l'espace et du temps. »
Elle habitait Germaine, une chambre de bonne, quelque part dans le cinquième, à côté de la Sorbonne. Les WC sur le palier, une fenêtre sur la cour, en haut d'un escalier qui avait jamais vu le jour. Et sur les murs sans joie de ce pauvre boui-boui, il y avait Che Guevara, les Pink Floyd et Johnny. Sur le vieil électrophone, trop souvent détraqué, elle écoutait les Stones et Maxime Le Forestier.
À mélanger des casseroles de purée. J'aime tellement mon lit.
Au revoir, c'est bon,
j'y pars.
C'est bon.
Tout est après-midi. Et qu'est-ce qui se passe?
Non, que Harold te reste. Que Harold te reste. On veut Harold. On veut Harold.
Nous sommes en guerre.
Sensation. I can see a new generation. Open it up in front of my eyes. Can you feel it in the beat? Can you see them on the streets now? Open it up in front of your eyes. If you feel that it's right, then do it right.
Bobby Lee.